السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حي الله هذه الوجوه الطيبة وهذه الأنفس الزكية، وجزى الله تبارك وتعالى خطاكم إلى هذا المسجد، ورفع قدركم ودرجاتكم، وجمعنا وإياكم في أعلى فراديس الجنان. وبعد، قبل الشروع في الحديث، نود أن نشير إلى نقطة مهمة، ألا وهي تتعلق بموضوع الكلمة، فقد ألزمت إياها ولم يكن لدي خيار فيها. وإن الكلام فيما يخص أهل العلم كلام ثقيل، لا سيما ونحن لأجل هذا نقلب صفحات الكتب المصنفة في هذا، التي تبين حقيقة العلماء وعلو قدرهم، وكيف يجب على المسلم أن يتعامل معه. وإذا قارنا بين ما هو واجبنا وبين ما هو حقيقتنا، فنخشى أن تكون هذه الكلمات التي تخرج من أفواهنا حجة علينا لا لنا، فنعوذ بالله من الخذلان، ونسأله العفو والعافية والصحة والغفران. ثم نتشجع ونرجو أن يكون هذا الكلام بالإضافة إلى غيره معينا لنا في أن نصل إلى هذه الدرجة. والمتكلم سواء كان أخاكم هذا الحقير الصغير أو غيره، لا يخلو من خطأ، ولا يسلم من كونه إنسانا. فالإنسان يخطئ، بل الخطأ من طبعه، وقد وصفه الله تبارك وتعالى في كتابه بعدة أوصاف، فذكر أنه ظلوم، جهول، عجول، منوع، يئوس، إلى غير ذلك من الأوصاف التي لا يخلو أو لا يسلم منها أحد. وقال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء. وكلمة كل كما هو معلوم ومعروف من ألفاظ العموم، فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ثم لو كان علينا أن ننتظر أن نتخلى من هذه العيوب والأوصاف الذميمة، قبل أن نجلس أمام الناس نحدثهم لما جلس على كرسي في مسجد أو في قاعة أو في غيرهما أحد. فالكمال لله تبارك وتعالى. وحتى أنبياؤه ورسله الذين بلغوا في درجة الكمال ما بلغوا بشر، فهذا أفضلهم وأعظمهم قدرا عند رب العالمين جل وعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يصاب في رأسه ويسيل منه الدم يوم أحد، وتكسر رباعيته، ويؤذى في الله جل وعلا لأجل أن يعلم الناس أن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام رجل كغيره من البشر، ولم يصل إلى درجة الألوهية التي لا يصل إليها إلا رب العزة جل جلاله. فالإنسان مهما بلغ قدره في الكمال فلا يخلو من نقص، وسبحان الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته. ثم أيها الأخيار، بعد الأنبياء والرسل الذين يجب على المسلمين تجاههم حقوق أشياء كثيرة هم العلماء، كما جاء في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، وإن ممن رفعهم الله تبارك وتعالى بهذا الكتاب العلماء الذين هم أمناء هذه الأمة، الذين هم أركان هذا الدين، الذين هم حماته، الذين هم خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم وورثاته، فلهم علينا حقوق عظيمة قل منا من يؤديها. فسيكون الحديث في هذه الأوقات، وأنا قد أطلت ولا أدري كم لدي من الوقت، فلعلي أقتصر على إحدى اللغتين، ولعلمي أنكم مهرة ومتقنون للغة القرآن، فلعلنا نقتصر عليها. أمزح أمزح، رأيت بعض الناس يلتفتون إلي متعجبين. على كل حال إن شاء الله نظرا لضيق الوقت نقتصر إن شاء الله تعالى على اللغة الفرنسية. Mes frères, qu'Allah Ta'ala illumine vos visages, purifie vos cœurs et vos esprits, et qu'il récompense chaque pas que vous avez accompli vers cette mosquée, et qu'il élève vos degrés, et qu'il purifie vos balances de vos péchés, et qu'il nous réunisse tous dans les plus hauts degrés du paradis. D'ailleurs, vous êtes actuellement dans un de ces jardins, un des jardins du paradis. Vous êtes actuellement entouré par les anges, et actuellement, la miséricorde d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et sa sérénité se descend et se déverse sur vous. Et lorsque vous quitterez cette assise, sachez que vous quitterez cette assise avec vos péchés pardonnés. Et même si vous êtes venu pour autre chose que pour écouter le cours, vous en profiterez, car ce genre d'assise, personne n'en ressort malheureux. Mes frères, avant de commencer, sachez que le sujet que je vais traiter avec vous maintenant m'a été, entre guillemets, imposé, et je ne l'ai pas choisi. Et sachez qu'il est difficile pour quelqu'un d'insignifiant comme moi de parler de personnes grandes comme les savants. Lorsqu'on prépare ce genre de conférence, hein, tout à l'heure avec les frères avec qui on est venu, on écoutait une conférence d'un cheikh qui s'appelle Abdelkarim al-Khudayr, hafidhahullah, et il dit que on l'a surpris en lui demandant ce sujet, et que si on lui avait laissé le choix, il n'aurait pas accepté. Et on comprend à travers cette parole qu'en fait il vient, il ne sait pas de quoi il va parler, tu parles de ça et puis c'est parti. Et tu fais un dars, c'est un livre. C'est les ulama. Nous, il nous faut des heures à préparer, à ouvrir les livres, à tourner les pages pour pouvoir vous parler. À la kulli hal, donc pendant qu'on prépare les cours, on réunit ce qu'on a comme livre à la maison et on tourne les pages et on lit. Et on est donc confronté à énormément d'anecdotes qui nous racontent la vie de ces savants et aussi des gens qui les accompagnaient. Et après, on s'arrête, on prend un peu de recul, on boit un verre d'oasis et on compare. On compare entre nous comment on est et eux comment ils étaient. Et après, on a honte. On a honte de devoir aborder ce genre de sujet. On a peur. On a peur, wallah, que ces paroles qui sortent de nos bouches et qui arrivent dans vos oreilles, elles soient un argument contre nous et pas pour nous. Mais on s'encourage et on se dit qu'il faut être optimiste et qu'à force d'en parler, un jour peut-être on y arrivera. Ah, il faut rester positif. Et l'être humain, mes frères, il est dans sa nature voué à se tromper. L'être humain, Allah tabaraka wa ta'ala étant son créateur, nul en dehors de lui ne le connaît mieux que lui. Et Allah dans le Coran, Jalla Jalalo, décrit l'être humain avec différentes caractéristiques, différents qualificatifs. Il dit comme quoi il est injuste, comme quoi il est ignorant, il se précipite, il est avare, j'en passe et d'autres. Et parmi les caractéristiques de l'être humain, c'est qu'il se trompe et qu'il commet des erreurs. C'est-à-dire, alayhi salatu wa salam, tous les fils d'Adam fautent et khatta ala wazni fa'al. Yufidul kathra. Donc le mot khatta répond à l'échelle de fa'al qui indique la multitude. Ça veut dire qu'il se trompe beaucoup et qu'il fait beaucoup d'erreurs. L'être humain, il se trompe. Qui le veuille ou non, il se trompera. Et Allah tabaraka wa ta'ala est celui qui a atteint la perfection absolue. La yadhillu rabbi wa la yansa. Mon Seigneur ne se trompe pas et n'oublie pas. Quant aux créatures, elles ont en elles l'imperfection. Et cette imperfection a pour but de nous rappeler à tous que le seul à avoir atteint la perfection, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et même parmi les êtres humains, ceux qui ont atteint les plus hauts degrés de la perfection humaine, qui sont les prophètes et les messagers, ont à travers certains événements montré leur imperfection. À titre d'exemple, durant la bataille de Uhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut blessé à son noble visage et son noble sang coula et ses dents furent cassées et il a souffert. Et à travers cela, parmi les énormes, les très nombreuses sagesses qui résident derrière cela, une des plus importantes est que tu te souviennes que Muhammad ibn Abdullah, alayhi afdalu salati wa skat taslim, reste un être humain qui est, comment dirais-je, sensible à la douleur, qui n'est pas immortel, qui n'est pas à l'abri à ce que son sang coule. Pour que tu te rappelles que quel que soit le degré que l'être humain atteindra, il restera un être humain. Et le seul à être à l'abri de tout défaut, de tout manquement, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Si on devait attendre, nous en tant qu'orateurs et prédicateurs et prêcheurs et autres, d'être dénués et dépourvus de tout défaut, avant de s'adresser à vous, il n'y aurait personne qui parlerait à personne. Et comme il disait Ibn Jawzi rahimahullah, on ne trouve des compliments à faire aux autres que parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala cache nos péchés les uns aux autres. C'est pas parce que mes qualités sont visibles que tu peux me faire des compliments. C'est pas pour ça. C'est parce que mes défauts te sont cachés. Et mes péchés te sont cachés. Hatta qala rahimahullah, laoula sitrullahi alayna lama dafana ba'duna ba'da. S'il n'y avait pas cette préservation qu'Allah Ta'ala met sur nous vis-à-vis de nos péchés, on se serait même pas enterré. Personne se serait enterré. On me ramène ton corps, lui là, ça va pas, j'enterre même pas. Et pareil, moi, quand je meurs. Donc l'erreur, elle est là. Et le péché, il est sur nos épaules. Et si ce n'est le pardon d'Allah Ta'ala et sa miséricorde, on fait partie des perdants. comme nos parents l'ont dit, Adam et Hawa, wa illam taghfir lana wa tarhamna, ish, lanakunanna min al-khasirin. Si tu ne nous pardonnes pas, ne nous fais pas miséricorde, on fera partie du cercle des perdants. À la kulli hal, après les prophètes et les messagers, mes frères, les êtres humains qui ont atteint le degré le plus proche de la perfection sont les savants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah tabaraka wa ta'ala élève par ce livre, par le Coran, des gens et en rabaisse d'autres. Allah, il élève des gens par le Coran, il en rabaisse d'autres. Et parmi ceux qu'Allah tabaraka wa ta'ala a élevés par le Coran, il y a les savants. Ces personnes qui, par leur science et le sacrifice de toute une vie à l'apprendre, le mettre en pratique et à l'enseigner, deviennent des piliers de cette religion. Ils font partie de ceux qui la protège et qui la préserve. Comme il disait Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, si un innovateur il rentre dans une maktaba, dans une bibliothèque, dans laquelle tous les livres sont écrits par des savants reconnus et de confiance, et que cet innovateur se met à prêcher ses innovations, est-ce qu'un livre va venir, il va s'ouvrir et va lui répondre? Non. Il va rester seul devant des murs qui ne lui répondront pas. Alors que si un étudiant il rentre dans cette pièce-là, ou un savant, et il entend les inepties ou les ambiguïtés qui sortent de la bouche de cet innovateur, il lui répondra avec les preuves évidentes et les textes authentiques, et il coupera et il mettra fin à ces ambiguïtés et il préservera les gens d'être perturbés par ces inepties. Donc les savants ont un rôle très important et ils sont les successeurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses héritiers, comme vous le savez tous. C'est pour cela qu'ils ont vis-à-vis de nous des droits très importants et malheureusement nous sommes bien peu à les remplir, ces droits, et à les appliquer comme il se le doit. Donc on va essayer à travers quelques points, de voir certains de ces droits et comment, notamment, ça c'est une chose très importante, les pieux prédécesseurs et les grands savants ont symbolisé l'application de ces droits. C'est très important ça, toujours, de rappeler aux gens comment les pieux prédécesseurs agissaient pour qu'on puisse se dire en nous-mêmes, ils sont ni des compagnons, ni des prophètes et des messagers, et pourtant ils ont enregistré leurs exploits dans l'histoire, à un point où, un millénaire plus tard, on parle encore d'eux. Dans la façon dont ils se comportaient avec leurs professeurs, avec leurs enseignants, avec leurs saints. Donc parmi les droits que les savants ont, c'est qu'on les aime. On doit leur porter un amour particulier. Vous savez tous qu'il est obligatoire pour le croyant d'aimer son frère croyant. Quand il dit alayhi salatu wassalam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Nul d'entre vous ne croira réellement tant qu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et dans notre hadith, Allah tabaraka wa ta'ala, quand il aime quelqu'un parmi ses serviteurs, il appelle Jibril alayhi salam. Et lui dit, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibba. Oh Jibril, j'aime un tel. Alors aime-le. Et Jibril l'aime. Ensuite, Jibril alayhi salam s'adresse aux anges, aux habitants du ciel, ou bien des cieux. Et il les informe qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime un tel. Alors aimez-le. Et il l'aime. Et ensuite, les anges se répandent sur terre et répandent l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala ainsi que le leur de cette personne aux créatures. Alors il est aimé. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne précise pas de qui il s'agit parmi les serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais il n'y a aucun doute que les savants qui mettent en pratique leur science, qui sont reconnus et de confiance, sont les prioritaires dans cela. Allah dans le Coran nous dit « وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ » Les croyants et les croyantes, les uns sont les alliés des autres. Donc, l'amour du croyant implique son alliance, que l'on en fasse son allié. Et sache qu'Allah tabaraka wa ta'ala les a pris comme allié avant toi. Il a dit jalla wa ala, ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Certes, les alliés d'Allah n'ont ni à avoir peur, ni à être tristes. Et les salafs disaient, il lam yakun il ulama awliya Allah, falaysa lillahi wali. Si ce ne sont pas les savants qui sont les alliés d'Allah, alors Allah n'a pas d'alliés. Ce qui veut dire qu'en priorité, les premiers à remplir cette fonction sont les savants. Donc on se doit d'aimer les savants et on se doit de les avoir comme alliés, de leur montrer une alliance pure et grande. Ali, radiallahu anhu, disait « Mahabbatul ulama dinun yudanullahu bih » Aimer les savants, c'est une religion avec laquelle on se rapproche d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qala ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, fa yajibu 'ala al-muslimina ba'da muwalati Allah ta'ala wa rasulih sallallahu alayhi wa sallam, muwalatu al-mu'minin kama nataqa bihi al-Qur'an, khususan al-'ulama alladhina hum warathatu al-anbiya. Il est obligatoire pour les musulmans de prendre Allah tabaraka wa ta'ala comme allié ainsi que son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il est aussi obligatoire de prendre les croyants comme alliés, comme le Coran l'a exprimé, et en particulier les savants, car ils sont les héritiers des prophètes. وقال ابن القيم رحمه الله فإن الله سبحانه وتعالى عليم يحب كل عليم. Qu'est-ce qu'il a dit Hassan tout à l'heure? La prochaine fois, je vais confisquer le téléphone. Ça marche pas? Vas-y. وقال ابن القيم رحمه الله فإن الله سبحانه عليم يحب كل عليم وإنما يضع علمه عند من يحبه فمن أحب العلم وأهله فقد أحب الله وذلك مما يدان به. Ibn Qayyim rahimahullah, il a dit, Allah jalla wa ala est le savant, l'omniscient. Et il aime les savants. Et Allah tabaraka wa ta'ala donne sa science à celui qu'il aime. Donc celui qui aime la science et ses partisans, les savants, qu'il sache alors qu'il a aimé Allah tabaraka wa ta'ala, et c'est avec cela qu'on se rapproche d'Allah Jalla wa Ala. Parmi les droits que les savants ont sur nous, donc qui dit amour dit respect, vénération. Là, je tenais à faire une légère parenthèse concernant le sens du mot vénération. Très souvent, on a tendance, nous les Français, à vouloir appliquer certaines règles arabes à la langue française. À savoir que chaque langue a ses particularités et dispose d'un certain champ de synonymes ou d'homonymes plus ou moins variés, que ce soit en arabe ou en français ou autre. Et il arrive aux frères des fois de vouloir faire d'appliquer donc des règles par rapport à les traductions françaises. Exemple, j'adore le chocolat. Il y a beaucoup de gens qui vont trouver ça étrange, non, on n'adore que Allah. Bon, bien, on dit, c'est ça. La langue dans laquelle on s'exprime contient des noms, des verbes, des adverbes, des prépositions, ce que vous voulez. Et parmi les verbes employés, il y en a certains qui disposent de plusieurs sens. Donc, si je regarde dans le dictionnaire français, et que je trouve au verbe adorer plusieurs sens, parmi eux vouer une adoration ou exprimer un amour très grand. Donc tant que les gens avec lesquels on s'exprime sont conscients que ce verbe-là a plusieurs sens, j'ai le droit de l'employer. Et dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala dit « قُلْ إِنْ كَانَ لِلْرَحْمَانِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ » dit, donc Allah, il a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de dire, si le tout miséricordieux a un enfant, alors je suis le premier des abidin. Qu'est-ce que abidin, il veut dire ici? Donc abid, c'est ce qu'on appelle ismul fa'il, le nom qui détermine le sujet, celui qui a accompli l'action. Et le mot abid ici, il provient soit du verbe abada, qui veut dire adorer, vouer l'adoration, soit du verbe abida, qui veut dire nier, ankara. L'akhawat qui parle, barakallahu fikum, baisser le son de votre voix. Donc, soit il vient du verbe abada qui veut dire vouer l'adoration, soit il vient du verbe abida qui veut dire ankara, nier. Et les savants de tafsir ont plusieurs explications à ce verset. Il y en a qui l'ont pris à la zahiri, de façon explicite. Donc ils ont dit, si le tout miséricordieux avait un enfant, je serais premier à l'adorer. Qui l'enfant, wahada mumtani, qu'Allah Ta'ala, donc disait à son prophète, d'adorer autre que lui, dans une même dans une supposition. Deuxième éventualité, c'est que ça reviendrait à Allah Ta'ala. Si le tout miséricordieux avait un enfant, eh ben je resterais le premier à adorer le tout miséricordieux. Mais là, il y a ce qu'on appelle rakaka, c'est-à-dire un manque de d'éloquence dans la phrase, si c'était le sens voulu. Et comme le Coran a atteint le summum dans l'éloquence, cette explication est aussi à mettre de côté. Et Al-Shinqiti, rahimahullah, dans Adwa al-Bayan, il a opté pour la troisième explication, que Abid ici, c'est le ismul fa'il de Abida, qui veut dire Ankara, qui veut dire nier. C'est-à-dire, قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ والتقدير إن كنتم تزعمون أن للرحمن ولدا فأنا أول العابدين أي فأنا أول المنكرين لما تزعمون وتدعون. C'est-à-dire que si vous prétendez que le tout miséricordieux a un enfant, alors je suis le premier à renier cela. Et c'est le sens le meilleur du verset, comme Al-Shinqiti rahimahullah y a fait référence dans Adwa al-Bayan. إذن عابد ici, est-ce qu'il a le sens de l'adorateur? Salukum. Oui ou non? Ça, je me suis mal exprimé. Abid en arabe. Est-ce qu'il a le sens de l'adorateur? Oui. Est-ce qu'il a un autre sens aussi? Oui. Est-ce qu'Allah, dans le Coran, il a employé le sens, le verbe ici, avec lequel des deux sens? De l'adoration ou bien du fait de renier la chose? De renier. Donc, si c'est jaïz, fil lughatil arabiya, si c'est permis en arabe, dans le Coran, pourquoi ça ne le serait pas en français? Il y a plein d'exemples comme ça. Je sais pas, quelqu'un vient, ta roue elle a crevé, tu l'appelles, il vient me donner un coup de main, il vient, tu changes ta roue, et après t'arrives à l'heure à ton rendez-vous. Tu dis c'est grâce à lui, je suis arrivé à l'heure. Après tu dis, faut pas dire c'est grâce à lui, c'est grâce à Allah. Est-ce que ça veut dire que c'est pas grâce à Allah, si? Ou bien il parle de grâce, fadl, kada, kada, il rentre dans des, il ta'ammaqoun fi ba'd al-masail allati la 'ilaqata laha biha lughatina hadhihi al-fransiyah. Il rentre dans des questions grammaticales ou bien d'ordre, comment ça s'appelle, rhétorique, qui n'ont aucun rapport avec la langue française. Pourquoi j'ai dit tout ça? Je m'en souviens plus. Hein? La vénération dans laquelle on réfléchit. Donc, j'ai dit le respect, vénérer. Vénérer, al-mutabadil ila dhihn, ce qui va devenir à l'esprit en premier, ce serait quoi? Quelqu'un, il vénère quelqu'un. Là. Vénérer, ça peut vouloir dire aussi faire preuve d'un respect énorme. C'est vrai que la langue française en termes de synonyme est assez pauvre par rapport à la langue arabe. Cependant, malgré tout, elle dispose quand même d'un certain trésor dans lequel on peut puiser différents mots. Ce serait bien d'ailleurs que nous tous, qui avons l'intention et l'objectif de devenir des poètes dans la langue arabe, des personnes qui la maîtrisent sous le bout des doigts, moi, c'est un avis personnel. Mais je trouve difficile quand même pour quelqu'un qui ne maîtrise pas sa langue natale, qui est la langue française, malgré tout. Comment tu veux passer à une autre langue et la maîtriser, alors que celle que tu parles depuis ta naissance, tu ne la maîtrises pas? Hein? Donc c'est important qu'on fasse un effort lorsqu'on se parle en français, qu'on fasse un effort et qu'on le parle bien. On arrête de nous prendre pour des gens sans papier. Ça m'est déjà arrivé. En fait, je dis, je viens de France, quoi, c'est ça, ouais. Il ne croit pas. Donc, le second des droits qu'on cite aujourd'hui, c'est le respect. Montrer l'importance qu'ils ont à nos yeux. Que ce soit dans la façon dont on s'exprime, on s'adresse à eux, ou même dans les choses qui les entourent. Et là, les savants rivalisent dans cela. Quand tu vois de quelle façon Yujilun al-Ijlal, je sais pas si c'est un équivalent en français, c'est vraiment admirer. C'est l'admiration. C'est quand tu vois, je sais pas, un enfant, tu vois, quand t'as tes enfants, tu sors avec eux dehors, toi t'es nul en foot, mais t'arrives à faire 4-5 jongles. Pour lui, t'es plus fort que le meilleur joueur de foot du monde. Et dans ses yeux, tu vois un respect, une admiration devant son père qui a réussi à faire 4 jongles de suite et 2 têtes. Dis-lui, c'est le plus fort. Donc tu vois, c'est le regard de l'enfant vis-à-vis du papa qui fait un exploit devant lui qui peut paraître dérisoire aux yeux des autres. Mais regarde ce qu'il a dans ses yeux, cette sorte de lumière. Hein. On dirait ses yeux grandissent et ses paupières rapetissent. Eh ben, c'est ça, l'Ijlal. C'est quand tu regardes la personne, son image est remplie tes yeux. À un point, Amr ibn As, radiallahu anhu, avant de mourir, il a dit tellement je respectais le prophète, alayhi salatu wassalam, tellement je l'admirais, j'arrivais même pas à remplir mes yeux de son image. Dès que je le voyais, j'étais battu par cette prestance et ce charisme qui était le sien. Et ça montre le respect qu'ils avaient envers le prophète, alayhi salatu wassalam. Il disait que si on me demandait de le décrire, j'y arriverais pas. Imagine-toi, tu vis quelques années avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on te demande de le décrire, t'arriveras pas. Je dis, je peux pas, je sais pas. J'ai jamais réussi à regarder tellement longtemps, assez longtemps pour pouvoir me souvenir des détails de son visage. Tellement je le respectais. Ça, l'Ijlal, avec les ulama. C'est pas quand le alim y parle, t'es allongé comme ça sur le dos, tu prends ton siwak comme ça, tu regardes dans la direction opposée où le chouki se trouve, et même, on l'a déjà vu, ton téléphone il sonne et tu réponds. Pendant le dars, le chouki fait son dars, quand tu parles, tu sors ton téléphone et tu réponds. Ça, c'est pas quelqu'un qui a respecté les ulama. Et sachez que respecter les savants et les admirer, ça fait partie de la glorification d'Allah tabaraka wa ta'ala, de sa vénération. Et voilà, comme je vous disais, quand on regarde dans les livres, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas quoi vous dire. Exemple. Rawal Khatib al-Baghdadi, rahimahullah, fi kitabih al-fiqh al-faqih wal-mutafaqih. An-Ish-Sha'bi. Souvenez-vous des titres de ces livres-là, les livres dont je me suis servi pour préparer le cours, sont des références à côté desquelles l'étudiant ne peut passer. Et je pense que les frères qui feront les cours après moi, en parleront. Mais souvenez-vous des titres. Al-Khatib al-Baghdadi, un livre, il s'appelle Al-Faqih ou Al-Mutafaqih. Donc le savant est celui qui apprend. Il dit, enfin il ramène donc un sanad d'après Al-Sha'bi, rahimahullah. قال, ذهب زيد ابن ثابت ليركب ووضع رجليه في الركاب فأمسك ابن عباس رضي الله عنهما بالركاب فقال زيد رضي الله عنه تنحى يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن عباس رضي الله عنهما لا هكذا يفعل بالعلماء والكبراء. Donc زيد بن ثابت رضي الله عنه qui était un savant parmi les compagnons رضي الله عنهم est monté donc sur sa monture et a installé ses pieds dans les trucs où on met les pieds et je sais pas comment ça s'appelle. Les étriers. Donc il met ses pieds dans les étriers. Et Ibn Abbas, radiallahu anhuma, qui était pas loin de là, lorsqu'il voit Zayd ibn Thabit s'installer sur sa monture, il prend les rênes de sa bête. Alors, plus précisément, pardon, il prend l'étrier pour que Zayd ibn Thabit puisse y mettre ses pieds. Alors, Zayd, il lui dit, non, éloigne-toi, ô cousin du prophète, alayhi salatu wassalam. Ibn Abbas, c'est parti de la famille du prophète. alayhi salatu wassalam, et la famille du prophète, comme vous le savez tous, jouit d'un droit particulier. Qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Je ne vous demande pas sur cela, sur la révélation, une récompense, si ce n'est l'affection envers les proches, c'est-à-dire les proches de la famille du prophète alayhi as-salatu wassalam. Donc Zayd ibn Thabit dit à Abdullah ibn Abbas, non, laisse mes étriers, tu es le cousin du prophète alayhi as-salam, tu n'as pas à faire cela. Alors Ibn Abbas, il insiste, il dit non, c'est comme ça qu'on doit faire avec les savants et avec les grands. Tu ne dois pas avoir de honte à accomplir des actions qui peuvent paraître rabaissantes pour les gens quand c'est pour les savants. De pouvoir stabiliser l'étrier afin qu'il puisse y insérer son pied sans difficulté. وروى الخطيب البغدادي أيضا في كتاب آخر اسمه الجامع لأخلاق الراوي عن علي رضي الله عنه. اسمعوا هذا والأثر هذا ذكره الخطيب بسنده عن طريق محمد بن سلام ومحمد بن سلام وبقية رجال السند الثقات إلا أن هناك انقطاع بين محمد السلام هذا وعلي فإنه لم يدركه فالحديث هذا معضل معضل ولكن يستفاد منه من حيث المعنى. Ce أثر là, Al-Khatib le rapporte une transmission dans laquelle il y a Muhammad ibn As-Sallam. Et Muhammad ibn As-Sallam, c'est lui qui rapporte le hadith de Ali. Et c'est une parole de Ali, radiallahu anhu, c'est pas une parole du prophète, radiallahu anhu. Le problème est que Muhammad ibn As-Sallam n'a jamais rencontré Ali, radiallahu anhu. Pourtant, tous les rapporteurs de la chaîne de transmission sont fiables. Mais à cause de l'interruption qu'il y a entre Ali et Muhammad As-Sallam, le hadith est donc mu'dal. Et le mu'dal, si on ne trouve pas une autre chaîne qui viendra le réparer, fait partie des textes faibles. Cependant, les savants font preuve d'une certaine souplesse avec les paroles des compagnons ou des prédécesseurs. Ce n'est pas comme les paroles du prophète, alayhi salatu wassalam. Et en plus de cela, on peut citer la parole en citant le défaut qu'elle contient et dans le but de tirer profit du sens de la parole. Car, malgré tout, elle reste correcte et convenable et elle a été, appliquée par les prédécesseurs. Ali radiallahu anhu yaqul, من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيديك ولا تغمز بعينيك غيره ولا تقولن قال فلان خلاف قولك ولا تغتابن عنده أحدا ولا تطلبن عثرته وإن زل قبلت معذرته وعليك أن توقره لله تعالى وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته ولا تسار في مجلسه ولا تأخذ بثوبه ولا تلح عليه إذا كسل ولا تشبع من طول صحبته فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. Donc il dit, parmi les droits du savant sur toi, lorsque tu rentres dans une assise où il y a plusieurs personnes, tu passes un salut général pour tout le monde et un particulier pour lui. Et tu t'assois devant lui. Et lorsque tu t'assois devant lui, tu ne gesticules pas, ou bien tu ne montres pas du doigt à n'importe qui en face de lui. Tu restes immobile. Il dit aussi, ne fais pas des signes avec tes yeux à d'autres personnes autour de lui. Ou bien ne regarde pas quelqu'un d'autre que lui. Et lorsqu'il dit une parole, il fait référence à un avis juridique qu'il conçoit comme étant le plus juste. Ne lui dis pas, ah mais il y a un autre qui dit pas pareil que toi. Il y a un autre chir qui dit le contraire. Ne dis pas ça. Et ne fais pas de médisance devant lui. Ne médis sur personne en sa présence. Que ce soit en sa présence ou d'ailleurs même avec d'autres personnes. Mais en particulier avec lui. Ne cherche pas ses défauts. Et dans le cas où il se trompe, alors tu acceptes ses excuses. Tu te dois de le respecter pour Allah subhanahu wa ta'ala. S'il a un besoin, tu dois être le premier à devancer les autres pour le satisfaire. Il ne parle pas discrètement à quelqu'un en sa présence. Il ne prend pas ses vêtements lorsqu'il passe près de toi. Il n'insiste pas lorsque tu vois de sa part de la fatigue. Et ne te rassasie pas, ou plus précisément, ne sois pas lassé par sa compagnie. Elle va dire quoi, ça fait un an, je prends des cours chez Foulen, c'est bon, je vais passer à autre chose, je suis lassé. Non. Ne te lasse pas de sa compagnie, même si tu l'accompagnes longtemps. Et sache qu'il est comme le palmier. Tu attends à ce qu'il fasse tomber sur toi ses fruits. Et sachez que dans les différents livres qu'on peut trouver dans le comportement à avoir vis-à-vis des savants, c'est Ajib. C'est l'armée. Et ce serait un bas ce qu'il faudrait faire. Parce qu'il y a une différence entre les droits que les savants ont sur nous et les comportements qu'on doit avoir à leur égard. Et ça, c'est un autre dars à faire. Et qui est important, et pour que les gens sachent la valeur de ceux qui leur apprennent des choses. Et ça ne s'applique pas seulement à celui qui est le savant, mais à tout enseignant. À un point où, Cheikh Mohammed Aman al-Jami, rahimahullah, il disait que même celui qui t'enseigne l'anglais, c'est pas une science religieuse, il a un haq sur toi. Pourquoi? Parce qu'il t'a enseigné quelque chose. Rabbouda ibn Abbas radiallahu anhuma, il y a des gens parmi les majous, hein, les adorateurs du feu, qui nous passent le salam des fois, ou bien qui nous disent des paroles bonnes. Est-ce qu'on leur répond? Qu'est-ce qu'il a répondu ibn Abbas? لو تكلم أو لو كلمني فرعون بخير رددته عليه. Il dit, si Pharaon m'aurait parlé en bien, d'une bonne façon, ben je lui aurais répondu de la même façon. Pharaon, comme quand toute personne qui a un haq sur toi, qui t'a enseigné quelque chose, même s'il peut paraître à tes yeux insignifiant, Wallah, il a un droit sur toi. À un point où certains savants disaient parmi les salafs, « Minhum shu'ba rahmatullah alayhi, man akhadtu anhu hadithan fa ana lahu abd. » Celui de qui j'ai pris un hadith, je deviens son esclave. Il a dit, وَانْدُرُوا إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ وَفَتَاهُ يُوشَى إِبْنُ نُونَ هَلْ كَانَ مَمْلُوكًا لَهُ أَوْ هَلْ كَانَ عَبْدًا تَحْتَ مِلْكِهِ لَا لكن كون هذا الفتى يصحب نبيا من الأنبياء ليتعلم منه أو على يديه يجعله كالعبيد مع سيده. Regarde dans l'histoire de Moussa dans Sourate Al-Kahf. Au début qu'Allah nous dit, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ. Et lorsque Moussa dit à son enfant, c'est-à-dire, pas son enfant dans le sens, c'est son fils. Ça veut dire que c'est son enfant, un jeune qu'il a à son service, son serviteur, son esclave. Et cet enfant, entre guillemets, ce jeune, c'était Yusha ibn Nun, qui a été le premier prophète des Banu Israël à lui avoir succédé après sa mort. Est-ce que c'était l'esclave de Moussa? Non. Mais comme il accompagnait Moussa alayhi salam pour apprendre la science avec lui, eh ben c'est comme si c'était son esclave. Pour montrer le droit que le savant a sur son élève et l'enseignant a sur celui qui prend des cours avec lui. Mais nous en France, on a un truc dans la poitrine, cette germe rebelle qu'on fait pousser depuis le plus jeune âge. Même quand on était à l'école, la prof disait, tu vas au cours, tu veux pas au coin. Et tu finissais dans le bureau de la directrice. Non, pas vous. Mince, monsieur Grillé. À la Kulihal, on a cette germe rebelle, malheureusement, qu'on retrouve avec les parents quand on devient adolescent. Après, ils te disent quoi, c'est l'âge adolescent, on n'y peut rien. C'est pas vrai, on y peut. Une tarte dans la nuque, t'inquiète pas, il arrête de parler. Même il a 30 ans. Mon père, il bouge, moi je bouge plus. À la Kulihal, cette rébellion, on l'a. Et cette rébellion a fait que on a du mal à exprimer du respect envers nos professeurs. On a du mal à lui montrer qu'il a un droit sur nous. On se dit quoi? C'est bon, lui aussi, c'est un Français comme nous. Hein. Lui aussi, il a vécu dans les quartiers. Lui aussi, il joue au foot quand il était petit. Lui aussi, il a le même âge que moi. Des fois même, il est plus jeune que moi. Bah, tiens. Pourquoi je le respecterais? C'est bon, il connaît 3-4 versets, ça retourne, c'est bon. Malheureusement. Et après, on s'étonne pourquoi les frères, ils prennent des cours pendant des mois, des années, et toujours à la fin, rien. Si tu veux pas respecter la personne qui parle,
au moins respecte ce qu'il a et ce qu'il te donne. Au moins. على كل حال سلفي disait من أخذت عنه حديثا فأنا له عبد فكيف بمن أخذت عنه الأحاديث التي لا تحصى ولا تعد. Que dire de celui de qui tu as pris des dizaines de hadiths? Tu peux même pas les compter tellement ton après avec lui. Le Khatib al-Baghdadi est toujours, souvenez-vous de lui, cet homme-là, rahmatullah alayhi, c'est une conférence à lui tout seul. Donc il a dit dans le même livre, وَإِذَا خَاطَبَ الطَّالِبُ الْمُحَدِّثِ عَظَّمَهُ فِي خِطَابِهِ بِنِسْبَتِهِ إِيَّاهُ إِلَى الْعِلْمِ مثل أن يقول له أيها العالم أو أيها الحافظ ونحو ذلك. Il dit lorsque l'étudiant s'adresse au muhaddith, au traditionnaliste, il le respecte même dans la façon dont il l'appelle. Il ne va pas l'appeler par son prénom. Il va l'appeler par un qualificatif qui fait voir que cette personne-là a de la science. Ô savant, ou bien ô hafiz, c'est-à-dire toi qui a appris le hadith. Ou, non, qui a pris le hadith, ou bien un autre terme de ce genre-là. Et comme toi, ça te brûle l'élève de dire shir, ben dis-moi alim, c'est pas grave. Les frères en France aussi sont allergiques au mot shir. Ils n'arrivent pas. Va au bled, par exemple. Tu vas acheter les coups de thème, hein, les gens connaissent les coups de thème, les mosquées où les enfants apprennent le Coran. Ils ont des professeurs qui ont peut-être 10 ans, ou maximum 15 ans de plus qu'eux. Ben depuis tout petit, on leur apprend à les appeler shir. Ma fait shaïd. On n'est pas en train de vous demander de nous appeler shir. C'est pas grave, ça pique les lèvres, ça gratte, ça gère ses lèvres, met du labello. Mais, à l'aqal, dans la façon dont tu t'adresses à lui, montre-lui que tu lui respectes. Mu'allim, dis mu'allim, c'est bien mu'allim. C'est awasf ala haqiqatihi. Il t'apprend quelque chose. Ismu al-fa'il. وروى ابن عساكر رحمه الله في تاريخ دمشق عن الشافعي رحمه الله أنه قال كنت أصفح الورقة بين يدي مالك بن آنس رحمه الله صفحا رفيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها. Et dans le respect que tu as envers le savant et la vénération, l'admiration que tu as pour lui, on a ce qu'on appelle cette crainte qui se dégage de la personne de par son charisme et sa carrure. Il y a des gens, des fois, tellement tu les respectes, t'as peur d'eux. Et Shafi'i, rahimahullah, comme vous le savez tous, il a étudié donc chez l'imam Malik, rahimahullah, alayhi. Il a dit que quand il était devant l'imam Malik et qu'il avait devant lui un livre, il faisait attention lorsqu'il tournait la page de la tourner le plus doucement possible. Il avait peur que l'imam Malik n'entende le bruit de la page et ça le dérange. Il avait peur de son shir. Et vous savez, les Arabes, ils appellent différents sentiments humains avec des noms donc divers en fonction du degré ou bien de l'origine. Vous savez que la peur qui est liée à l'inconnu ou à l'ignorance, on l'appelle khawf. Et la peur qui est liée à la connaissance et à la science, on l'appelle khashia. Et la peur qui est liée au respect, on l'appelle haiba. C'est comme l'amour. L'amour, en fonction de l'origine de celui-ci, il aura un nom différent. Al-ishq, al-hub, al-mawadda, al-ulfa, wa ma ila dhalik. Et celui qui veut plus de détails à ce sujet-là, je l'invite à retourner au livre de Al-Tha'alibi qui a pour nom Fiqhu al-lughatil arabiyyati wa asraruha. C'est délicieux. Ala kulli hal, il a dit, rahimahullah, donc, qu'il avait peur que son shir entende le bruit de la page lorsqu'elle tombe de l'autre côté. وقال الربيع رحمه الله والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. Donc voilà. On ne sait pas le Shafi'i non plus. الربيع a des élèves de Shafi'i رحمه الله, il a dit par Allah, je n'ai jamais osé boire devant un Shafi'i de peur qu'il me regarde. Tellement je le craignais. Aujourd'hui, les frères dans les cours, ils sortent leur paquet de M&M's, leur café, il leur manque plus qu'à tartine pour le tremper dedans. Des fois, ils se lèvent, ils partent. Tu vas où, Akhi? Voilà, mais toi, t'es, je sais pas. T'es en train de parler, qu'à la rassoua, qu'à la kada, qu'à la kada, ils sont dans les lèvres, puis ils partent. Je suis Akhi, tu vas où, Akhi? À la kulli hal. وروى الخطيب البغدادي رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي عن عبيد بن حنين أنه سمع عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما يحدث قال مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن آية فلا أستطيع أن أسأله هيبة له. عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما parlait de sa propre expérience. Il a dit: je suis resté un an à vouloir interroger Omar ibn Khattab sur un verset. Un an, j'arrivais pas à lui poser la question tellement j'avais peur de lui. Pendant un an, il approche de lui, après il fait demi-tour. Ou bien il reste à côté, après il se tait. Il n'arrivait pas. De la crainte qu'il éprouvait vis-à-vis de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu arda. وقال يعقوب بن سفيان في كتابه المعرفة والتاريخ حدثني محمد بن أبي زكير أخبرني ابن وهب حدثني مالك عن ربيعة قال كان يقول إنما الناس مع علمائهم مثل الصبيان في حجور من يربيهم. Ça c'est une parole générale qu'on prendra comme conclusion de ce passage, de ce droit-là. ربيعة, qui est un des professeurs de l'imam Malik rahmatullah alayhim, a dit, on disait les gens sont avec leurs savants comme les enfants devant ceux qui les éduquent. Comme les enfants devant ceux qui les éduquent. Fais la comparaison et tu verras. ويدخل تحت هذا يعني تحت احترامهم وتوقيرهم وإجلالهم ألا يتقدم أحد بين يدي العلماء. Rentre sous cela, c'est une sous-partie de ce droit-là, à ne pas s'avancer devant les savants. Tu ne dois pas aller là où l'on va mis le pied, comme il disait Zuhri rahimahullah, wal yasa' kama wasi'ahum. Et qu'il te suffise ce qui a suffi aux plus prédécesseurs. C'est pas t'es dans une assise avec un shir, avec un savant, et on lui pose une question, toi tu fais, na'am, al-jawab kala. Ajib, comment tu oses parler devant ton cheikh, celui qui t'a enseigné, toi tu oses devant, en sa présence, sans lui demander la permission, prendre la parole, alors qu'on s'adresse à lui et on lui pose la question à lui. Écoutez ce hadith. Madkour fi ou marwi sahihain an Abdillah ibn Umar radiyallahu anhuma qala. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروني بشجرة مثلها أو مثلها نعم مثلها مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ولا تحط ورقها. فوقع في نفسي أي عبد الله بن عمر أنها النخلة فكرهت أن أتكلم وثم أبو بكر وعمر. فلما لم يتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. فلما خرجت مع أبي قلت يا أبتاه وقع في نفسي أنها النخلة. فقال ما منعك أن تقولها؟ فقال لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. قال عبد الله بن عمر ابنه ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمت ما فكرهت. Donc Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux compagnons radiallahu anhum: informez-moi d'un arbre qui est comme le croyant. Il donne ses fruits tout le temps et il ne perd pas ses feuilles. Alors il a demandé aux sahaba: pour vous c'est quoi cet arbre-là qui ressemble au croyant, qui donne ses fruits tout le temps et qui ne perd pas ses feuilles? Alors, Abdullah ibn Umar, qui était encore un jeune garçon, a pensé au palmier. Mais, il a refusé de répondre, alors que dans l'assise, il y avait Abu Bakr et Umar, qui se sont abstenus de répondre. Alors, il n'a pas répondu. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu que personne ne répondait, il a dit, c'est le palmier. Après la fin de l'assise, Abdullah ibn Umar sort avec son père. Et il dit à son père: oh mon père, moi j'avais pensé au palmier quand le prophète a posé la question. Alors Omar, il dit à son fils: pourquoi tu ne l'as pas dit? Si tu l'avais dit, ça m'aurait été préférable que ça et ça parmi les choses. Imagine la fierté que tu vas éprouver quand ton fils répond à une question posée par un savant, que dire alors quand c'est celle du prophète alayhi salatu wassalam. Si tu avais répondu, ça m'aurait été préférable que telle et telle chose. Pourquoi t'as pas répondu? Alors Abdullah ibn Umar lui a répondu, il lui dit, la seule chose qui m'a empêché de répondre, c'est que j'étais vu toi et Abu Bakr ne pas répondre. Alors j'ai eu de l'aversion à répondre alors que vous vous observiez le silence. On ne se met pas devant les ulama. On ne parle pas devant eux. Devant eux, nous ne sommes que des oreilles. Et eux, ce sont la bouche. On devient chacun le membre du corps, un membre différent du corps. Et on ferme sa bouche. Le alim, lui, il a passé sa vie dans l'étude, dans l'apprentissage. Il a étudié la question plusieurs fois de suite. Un bon imam Ahmad, rahimahullah, il a dit qu'il est resté 9 ans à étudier le chapitre juridique relatif aux règles des menstrues, jusqu'à ce qu'il le comprenne. 9 ans! Toi, tu viens après 9 minutes, tout petit. Tu dis, Yajouz, ma Yajouz, fais la prière, fais pas la prière. Alors que Ammatul Fuqaha, il considère le chapitre relatif aux menstrues comme faisant partie des chapitres les plus durs de la jurisprudence. وإن كان في هذا نظر من حيث كلام قاله العثيمين في الشرح الممتع من أراد التفصيل فليرجع إليه. على كل حال, c'est pas des choses à prendre à la légère. Nous, moi en particulier, on est des bricoleurs, des débutants, nous aussi. Donc ne vous étonnez pas si un jour vous nous dites, vous nous posez une question, vous dites jaïs, et demain vous dites non, la yajouz. Parce qu'aujourd'hui on lit un livre, et lendemain on en lit un autre. Et Abu Hanifa, rahmoullah, il a dit une parole comme ça. Il a dit, ne prenez pas de moi, ou bien de Soufyan, ou bien de l'Auza'i. Il a dit, naqulu bil qawli al-yawm, wa naqulu bi khilafihi ghadan. Aujourd'hui on dit une parole, et demain on en dira une autre. C'est pour ça que le savant, le vieillard, et on y viendra par la suite, si, ça va, ça va. Si, on a le temps, Inch'Allah, on en viendra par la suite, que le savant âgé, il a des particularités que le jeune n'a pas. Que le jeune n'a pas. Et nous, on est encore en période de conception, de formation, d'évolution, alors que eux, après de longues heures et de longs moments à étudier la question, sont arrivés à la fin à un avis définitif, jusqu'à ce qu'on leur prouve le contraire. À la kulli hal, donc il est important de tenir sa langue devant les savants et de ne pas s'avancer devant eux. De ne pas s'avancer devant eux. Et parmi les épreuves qui nous touchent ici dans ce pays, c'est qu'il n'y a pas de savants. Alors les frères, ils font ce qu'ils peuvent. Ils vont dans les bibliothèques, dans les librairies qui vendent des livres islamiques en arabe ou en français, et ils apprennent et ils lisent et ils font ce qu'ils peuvent. Et ils s'improvisent eux-mêmes comme mufti. Il dit Yajouz, il dit la Yajouz. Et on ne se rend pas compte de cette responsabilité énorme que de venir donner des jugements aux choses, aux gens. C'est très 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 lourd comme responsabilité. Donc il faut me dire, Allahu A'lam, que mettre son pied dans un sable mouvant duquel tu auras beaucoup de mal à enlever. Tu connais le sable mouvant, plus tu bouges, plus tu t'enfonces. Fais attention. Et laisse les savants parler. Et fais attention aussi au fait de prendre la science dans les livres. Comme disaient les salafs, من كان شيوخه كتبه كان خطأه أكثر من صواب. Celui qui a comme professeur ses livres, eh bien il se trompera plus qu'il n'aura raison. Cette parole-là, Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, il disait qu'elle est en général juste, mais il est possible qu'il existe certaines exceptions. Notamment quand la personne qui étudie se trouve dans un contexte où malheureusement il n'y a pas de savant pour lui enseigner, et qui connaît la méthodologie pour apprendre, et que lorsqu'il est confronté à une ambiguïté ou bien à une incompréhension, il revient au savant. Lui, bidnillah, bitawfiqillah, il peut échapper à la règle. Et là, généralement, on se rend compte très souvent que la majorité des gens qui apprennent, qui achètent des livres en français, qui les empilent dans leur bibliothèque et qui les lisent les uns après les autres, très souvent, ils ne font qu'accumuler un flot d'informations dénué de tout fondement qui fait qu'ils n'ont aucun, ils n'ont pas, comment dire, de fermeté et de logique dans la science. Donc, il faut faire attention à ça. Et il ne faut pas se permettre de devancer les savants qui ont passé des décennies à étudier ce genre de questions. Et parmi le respect qu'on doit avoir par rapport aux savants, c'est le respect qu'on doit avoir par rapport à leurs avis aussi. Comment est-ce que, et ça j'ai entendu des dizaines de fois, on peut parler de l'imam Malik par exemple, rahimahullah, ou bien Shafi'i, ou bien Ahmed ou autre, une mas'ala quelconque. Par exemple, mas'ala que tout le monde croit connaître sur le bout des doigts. Ada, ou at-tanafful fi waqt an-nahy. Fi al-masjid. Ou fi ghayrihi. Hein, accomplir des prières surérogatoires dans les moments interdits. Donc la majorité d'entre nous aura entendu parler de l'avis de qui a à l'origine, entre autres, Al-Shafi'i, rahimahullah, comme quoi cette interdiction ne concerne que les prières surérogatoires dénuées de raison. Quant à celles qui ont une raison, alors elles peuvent être accomplies même dans ces moments-là. C'est ce qui est connu et répandu chez nous. Et quand tu viens, tu dis quand même, l'imam Malik, rahimahullah, il ne voyait pas ça. Hein. Ouais, Marie, il s'est trompé. Normal. Normal, on dirait, t'as parlé de ton voisin, il a acheté des chaussures, des chaussettes. Hajim, hada. On a hajim. Il y a des savants, ils étaient tellement perplexes dans cette mas'ala, que quand ils arrivaient à la mosquée entre l'Asr et le Maghrib, eh ben, ils restaient devant la porte, ils ne rentraient pas. Ils ne rentraient pas. Pour ne pas être confrontés à, je dois prier dans un moment interdit, ou m'asseoir, alors je n'ai pas le droit de m'asseoir si... avant de prier, il va préférer rester devant la porte de la mosquée pour pas être confronté à cette ambiguïté. Des savants, toi tu viens, et en deux temps, trois mouvements, t'as réglé le problème. Là, Ikhwan, c'est pas aussi simple que ça en allait. Si c'était aussi simple, l'imam Malik leur dit la même chose, vous croyez pas? Peut-être que l'imam Malik a pas de science. Là, si on doit douter de quelqu'un, c'est pas l'imam Malik, c'est toi. Toi qui sais pas faire la distinction entre le ta et le ya, ah, deux points en haut. Le ya, ah non, le ta. C'est quoi déjà? Après, tu viens, tu parles de l'imam Malik? Hajib. Et ça, c'est du taqaddum bayna yadayl ulama. Il est mort, rahmatullah alayhi. Avec ce qu'il a fait comme a'mal azima pour la communauté. Et hatta al-yawm tajri hasanatuhu, ba'da mamatihi, rahimahullah ta'ala. Et toi, tu viens? Non, j'ai trompé. Donc il faut vraiment faire preuve d'humilité et de respect envers nos savants, qu'ils soient vivants ou morts, à travers les avis qu'ils peuvent avoir. Et même si réellement, après une certaine explication de la part d'autres savants, il s'avère que ce savant s'est trompé, eh bien, نترحم عليه ونسأل الله أن يغفر له وأن يوسع له في قبره وأن يجزي له المثوب إلى آخره. On sait que c'est un savant qui reste un être humain, qui peut se tromper, qui peut faire des erreurs, il a fait un effort de réflexion, d'interprétation, il n'a pas eu, il n'est pas arrivé à la bonne conclusion, mais il est récompensé par Allah tabaraka wa ta'ala, et ainsi de suite. C'est ça le comportement qu'on doit avoir vis-à-vis de cela. Parmi les droits que les savants ont sur nous, c'est de défendre leur honneur. De défendre leur honneur. Et de ne pas les insulter ou parler en mal sur eux. On connaît tous le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'Allah jalla wa ala dit man aada li ou man aada li waliyan faqad aadantuhu bin harb. Celui qui prend un de mes alliés comme ennemi, certes, je lui déclare la guerre. Certes, je lui déclare la guerre, comme on l'a dit fi muqaddimati ad-dars, al-ulama awliya'ullah. Et sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme a rawahu Ahmed wa ghayruh, عن أسماء بنت زيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذب عن عرض أخيه ذب الله النار عن وجهه يوم القيامة. Celui qui défend l'honneur de son frère, Allah Jalla wa Ala défend son visage de l'enfer le jour du jugement, protège son visage de l'enfer afin le jour du jugement. قال ابن جماعة الكندي الكناني رحمه الله في كتابه تذكرة السامع والمتكلم. Souvenez-vous de ce livre là aussi. Ibn Jama'a al-Kinani, Tazkiratu al-Sami'a, livre très important. Il a dit, wa min dhalik an yu'azzima hurmatah wa yarudda ghaibatah wa yaghdiba laha fa in 'ajiza 'an dhalik qama wa faraqa dhalik al-majlis. Donc il dit, parmi les droits que le savant a sur les autres, est que tu vénères son honneur, la sacralité de ton shir. Quelle est l'importance à tes yeux? Et que si quelqu'un médit sur lui en ta présence, tu le défends. Tu ne le laisses pas parler sur le shir en mal. Et tu t'énerves pour cela. Et si tu es incapable de défendre le shir ou t'énerver pour cela, alors au minimum tu te lèves et tu pars. Et tu ne restes pas avec ceux qui médisent sur lui. Aujourd'hui, il y a des gens qui prétendent que d'autres parlent en mal sur des savants. Alors, ils t'invitent à manger chez eux, et ils t'honorent, ils te posent une djage muhammar, le zitoun, le chiyad shlada, à la kulli hal, ils te mettent bien. Et il y a une discussion. Et pendant cette discussion, donc t'en as un qui parle, et les autres qui écoutent. Ça peut durer une demi-heure, 20 minutes. À la fin, le dessert, il vient, tiramisu, des fruits, un petit thé, des cacao. Et, à la fin, ah, barakallahu fik akhi, ils prennent dans leurs bras, ils te serrent la main. Et toi, tu pars. Et lui aussi, il part. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il allume le PC. Et il chauffe les doigts pour taper sur le clavier. Et il dit, le frère Allah al-Musta'an, il a parlé en mal sur les mashaykh et kada et kada. Avec des ibarats, wallah, tu dis, c'est trop marrant, wallah. Je crois qu'il a dit ça, à un moment il a parlé du shirk, il a fait une grimace, on dirait il l'aimait pas. Wallah, c'est trop agi. Ya akhi Karim, si vraiment la personne dont tu parles a parlé en mal sur les mashaykh, pourquoi t'es resté silencieux? Défends-le. Non, toi tu restes comme ça. Ah oui, c'est vrai, tu sais, il acquiesce de la tête comme ça. Et après, il te prend dans ses bras, il te remercie d'avoir discuté avec lui. Et après, il dit quoi? Il parle mal sur les chouyours. Hachim. Bah si il a parlé en mal sur les chouyours, bah défends ton chir. Défends-le. Dire qu'il t'a pris là, tu ne peux pas sur les machines comme ça. Qu'est-ce que tu, de quoi t'as peur? On va te manger. Ou bien t'as peur. T'as vraiment peur parce que t'es vraiment un lâche et un poltron et le mot est faible. Au moins tu te lèves, tu pars. Wa imma yunsiyannaka ash-shaytan fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'a al-qawm adh-dhalimin. Ya Allah. Si jamais t'as oublié, Shaitan t'a fait oublier que faut pas rester avec eux, tu t'en rappelles. Et bien lorsque tu t'en rappelles, ne reste pas avec les injustes. Pas. Innaka idhan ish mithluhum. Sinon tu seras comme eux. Voilà, la ta'ajab, na'ish, zaman, ghariban. On vit une époque où là, trop étrange. Trop étrange. Et des fois, j'ai envie de faire comme il fait notre frère bien-aimé Hatim, enregistrez pas. Mais Inch'Allah ta'ala, on s'en fiche. Dites ce que vous voulez. Wa rabbi kibir. Ala kulli hal. T'as vu, je parle d'une citation. Donc, on a dit, man dhabba an 'irdi akhihi. Défends l'honneur de ton frère. Sois un homme. Sois viril et courageux. Sois vaillant et brave. T'as peur de qui? T'as peur des hommes? Pas peur de toi, moi. Tu parles en mal sur un shirk. Taqillah, ferme ta bouche. Pourquoi tu parles sur le shirk? De quoi j'ai, pourquoi tu parles sur le shirk? T'es qui, toi? Tu es le rigou pour parler sur le shirk? N'aie pas peur de lui. Si tu vois quelqu'un qui manque de respect envers un chiikh en ta présence, c'est pas compliqué. Soit tu es un homme, un croyant, qui respecte ses professeurs et qui les défend et qui a pas peur des gens, ou soit malheureusement la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, t'as pas cette force et ce courage, alors au minimum tu te lèves et tu pars. Tu restes pas avec Ismaulima, tu ne pas avec vous. Az-Zuhari, rahimahullahu wa ghafara lahu, un des camarades, entre guillemets, de Bukhari. Il mettait en garde contre le Bukhari dans ses assises. Il disait, man ikhtalafa ila al-Bukhari ou Muhammad ibn Ismail, fala yajlisanna ilayna. Il disait comme ça. Celui qui va voir le Bukhari qui n'est pas chez nous, Az-Zuhari. Et il est même muslim, il était dans une assise de Zuhari, hada, rahimahullah. Et quelqu'un a posé une question sur al-Bukhari. On a toujours eu des comme ça. Un cheikh, ma qawlukum fil Bukhari. يقول كلام كلاما لا نعتنقه لا تجلسوه ولا تجالسوه ولا تتأخذ العلم منها. أبو خويس بيان كيو دوجوردوي يا حسرة. Dit non 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 non, dit des paroles, nous on n'est pas d'accord avec ces paroles là. Ne vous asseyez pas avec lui, ne prenez pas la source de lui. Al Bukhari, je vous parle. Hein. Et ne croyez pas que Az-Zuhari c'est quelqu'un de loin. Az-Zuhari c'est min ahli sunna aussi. Pour preuve, Al Bukhari rapporte des hadiths de Az-Zuhari. Malgré le fait que Az-Zuhari met en garde contre lui. Mais Shahib dans la Qissa, c'est quoi? Les musulmans, ils étaient là, ils disent, quoi? Le Bukhari, il met en garde contre lui, il a pris ses affaires, il s'est levé, il est parti. Pendant le cours. Il s'est pas arrêté là. Le musulman, rahimahullah, à cette époque-là, il rapportait les hadiths. Et il a rapporté des hadiths de Zuhari. Après que Zuhari, il ait parlé mal sur le Bukhari, qu'est-ce qu'il a fait? Il a effacé tous les hadiths qu'il a pris de Zuhari. Et regardez dans Sahih Muslim, vous ne trouverez pas un hadith qui rapporte de Zuhari. Alors que le Bukhari, il rapporte des hadiths de Zuhari. Il l'a, sauf que malgré tout, comme disaient les ulama, al-aslu fil jarhi annahu yu'ish, al-aslu fil jarhi al-alam. La base dans la critique, c'est que ça fait mal. Jaraha en arabe, ça veut dire blessé. Et blessé, ça fait mal. Et le Bukhari, c'est un être humain comme les autres. Et même s'il avait preuve d'une grandeur d'esprit sans pareil, il a quand même fait un tadlis pour montrer que ce qu'il a fait de Zuhari par rapport à lui, c'était pas bien. C'est quoi tadlis? Il l'a appelé avec un autre nom. هذا محمد الزهلي يسمى محمد ابن علي ابن يحيى او محمد ابن يحيى ابن خالد جان خلل دون الحفظ على كل حال يسمى محمد ابن علي ابن يحيى الزهلي et son père il s'appelait Ali ou Khalid un des deux j'ai un doute et son grand père il s'appelait Yahya et quand le Bukhari rapporte le hadith de Zuhali au lieu d'appeler Muhammad ibn Ali par le nom de son père il appelait Muhammad ibn Yahya par le nom de son grand père. Et les Hufaz, eux, ils savaient qu'ils parlaient de Zuhari. Mais il n'a pas dit directement son nom. Parce que quand même, il a parlé sur lui, mais t'en regardes contre lui. Mais, c'est la parole du prophète, et on regarde pas ce qu'il y a dans les gens. On ramène la parole du prophète. Mais Shahid, c'est que Muslim, rahimahullah, quand il a entendu Zuhari parler sur le Bukhari, il s'est levé, il est parti. Et il a pris tous les hadiths qu'il avait apportés de Zuhari, il les a effacés. Voilà les vrais hommes. Rijal. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. Regardez dans le Coran, quand Allah il parle de rujula, pas de al-zukura, du fait d'être un mâle. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de versets où Allah il parle de rijal fi muqabil an-nisa, des hommes à l'inverse des femmes. Ou bien des fois il parle des hommes à l'inverse des djinns. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Donc des fois Allah il emploie le mot djinn, le mot rijal, sans qu'il y ait derrière un réel aspect positif, juste à titre informatif. Mais dans 3 ou 4 versets Allah Ta'ala emploie le mot rijal pour montrer c'est quoi la virilité islamique. مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُ اللَّهَ عَلَيْهِ. Il y a parmi les croyants des hommes qui ont tenu la promesse qu'ils ont fait à Allah. Ou encore, fi buyutin adhina Allah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh, yusabbihu lahu fiha ish rijal. Dans des demeures qu'Allah a autorisé, a permis à ce qu'elles soient bâties et qu'on y glorifie son nom, il y a des hommes qui l'évoquent soir et matin. Ila akhiri. Ala kulli hal, ar-rujula matluba huna. ولا حياة لمن تنادي وإن لله وإنا إليه راجع. على كل حال, donc tu défends ton cheikh. Ça ne veut pas dire aussi que le fait de parler des fois sur la vie qu'un savant a eue, très loin de la du résultat correct, ou bien des fois un égarement vers lequel il peut appeler, ne veut pas dire à ce moment-là que mettre en évidence cette erreur ou bien avertir les gens de cet égarement fait partie du fait de parler en mal sur le shirk. Hein? Beaucoup de gens aujourd'hui reprochent à Ahl al-Sunnah ظلماً وزورا de parler sur les ulama. وهذا فيه إفراط وتفريط وخير الأمور أوسطها. C'est vrai que dans cela il y a de l'abus, tout comme il y a du laxisme. De l'abus dans le sens où ils nous disent de parler sur tous les savants en mal, chose qui est fausse. Du laxisme dans le sens où il y en a qui nous disent non, on parle de personne, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et ça aussi c'est rejeté. Et le meilleur des degrés, c'est celui qui est au juste milieu. Je fais référence à l'erreur en citant le nom du shirk et en faisant preuve de respect vis-à-vis de lui pour que les gens sachent que l'erreur est présente. Pour ne pas qu'ils croient que le savant est un ange ou bien quelqu'un qui reçoit la révélation et qui peut être infaillible et ne pas se tromper. Non. Exemple. قال الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في ترجمة عكرمة رحمه الله روى جعفر بن عثمان الطيالسي عن ابن معين رحمه الله قال إذا رأيت إنسانا يقع في عكرمة وفي حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام. فقال الذهبي رحمه الله تعالى بعد ذلك قلت هذا محمول على الوقوع فيهما بهوى وحيف في وزنهما. أما من نقل ما قيل في جرحهما وتعديلهما على الإنصاف فقد أصاب. الذهبي رحمه الله dans سير أعلام النبلاء, je vous le dis là aussi, je pense que vous le connaissez, dans la biographie de Ikrima, il rapporte une parole de Ibn Ma'in, Yahya Ibn Ma'in, imam al-Jarh wa al-Ta'dil. Il dit que si tu vois quelqu'un parler en mal sur Ikrima ou Hamad ibn Salama, alors accuse son islam. En gros, doute, est-ce qu'il est musulman? C'est fort quand même. Et Al-Zahabi, rahimahullah, il dit quoi après? Il dit la parole de Yahya ibn Ma'in, c'est dans le cas où on parle sur ces hommes-là, Ikrima et Hamad ibn Salama, avec ses passions, ou en les dénigrant, sans leur accorder de l'intérêt. Mais dans le cas où on rapporte ce qui a été dit sur eux comme éloge ou comme critique, justement, avec justice et équité, l'insaf, c'est la justice. Être juste. Comme il disait Ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullah, fi muqaddimati al-qawa'id, il disait, la yakhlu kitabun min khata, wal munsif هو الذي يغتفر قليل خطأ المرء في كثير ثواب. Ibn Rajab رحمه الله disait, il n'y a pas un livre sans qu'il contienne d'erreurs. C'est impossible de trouver un livre où il n'y a pas d'erreurs. Il n'y a pas un livre sans qu'il contienne une erreur. Et l'homme juste est celui qui pardonne les quelques erreurs de la personne à côté de la multitude de bons avis qu'il a eus. À côté de la multitude de bons avis qu'il a eu. وقال الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة الإمام الشافعي رحمه الله وما تكلم فيه إلا حاسد أو جاهل بحاله فكان ذلك الكلام الباطل منهم موجبا لارتفاع شأنه وعلو قدره وتلك سنة الله تعالى في عباده يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا. Donc c'est ça. Soit le shir, tu parles de ces erreurs avec justice et équité, sans faire preuve de mauvais comportement à son égard, tout en conservant le respect qui lui est dû, ou soit tu parles de lui en mal, injustement. Et Al-Zahabi, rahimahullah, il parle dans la biographie de Shafi'i, et sachez que Shafi'i, lui aussi a été critiqué, et lui aussi on a mis en garde contre lui. Et retournez aux ouvrages, et vous verrez ce qui a pu être dit sur Al-Shafi'i, rahimahullah. Et bien entendu, Al-Zahabi dit, en parlant de cela, il dit, n'a parlé sur Al-Shafi'i, rahimahullah, que un envieux jaloux, ou encore un ignorant sur son état. Et ces paroles fausses, ces critiques non fondées à son égard, ont imposé à son élévation parmi les gens. Ont imposé son élévation parmi les gens. Et le fait qu'il soit respecté de tous. Et c'est comme ça qu'Allah Ta'ala fait avec ses serviteurs. C'est comme ça qu'Allah Ta'ala fait avec ses serviteurs. Si quelqu'un parle de quelqu'un d'autre injustement, il parle de lui en mal, le critique négativement, sans raison, sans preuve, injustement, eh bien sachez qu'à la fin, Allah Ta'ala, il donnera le dessus à celui-ci, celui qui a été critiqué injustement. Dit dans le Coran, Allah Jalla wa Ala, oh vous qui avez cru, ne soyez pas comme ceux qui ont porté atteinte à Moussa, alayhi salam. Allah l'a innocenté de ce qu'on lui a, de ce qu'on l'a accusé, et il avait certes auprès d'Allah une énorme valeur, Moussa alayhi salam. Et vous connaissez aussi l'histoire de Aïcha, radiallahu anha, wa ardaha, lorsqu'elle fut injustement accusée par les hypocrites et certains, dont le cœur était malade, d'avoir commis la fornication, wal'iyadu billah, et Allah tabaraka wa ta'ala l'a innocenté dans le Coran. Et jusqu'à aujourd'hui, on lit cette innocence, jusqu'à ce qu'Allah reprenne le Coran. Et celui qui dira que Aïcha est coupable de cette accusation, c'est un kafir bil ijma'. C'est un kafir bil ijma'. C'est un mécréant sans aucune divergence chez les savants. Parce que son innocence, comment on dit? On dit pas innocentement? Non? Si? Hein? À la culinaire, son, c'est là que je faisais le malin, parler bien français, ça y est. Donc cette innocence qu'Allah Ta'ala, hein? Ouais, maintenant, le fait d'innocenter quelqu'un. Innocenter, donc techniquement, innocentement, à la culé hal, Allah tabaraka wa ta'ala l'a innocenté dans le Coran. Et celui qui viendra dire non, elle est coupable, alors il aura renié le Coran. Et celui qui renie le Coran, eh ben, il m'y croit. J'ai plus de temps. Juste, birtisar, je vous dis les derniers huquq. Parmi les droits que les savants ont sur nous, le fait qu'on doive revenir vers eux. Allah dit dans le Coran, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Et a dit Jalla wa ala, wa law radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Et s'ils s'en étaient remis aux messagers et à ceux qui ont le commandement parmi eux, eh ben, ils l'auraient su ceux qui ont déduit cela des textes. Les savants sont ceux qui déduisent les règles et les jugements des textes. C'est pour cela que dans le cas où on a une ambiguïté, une ignorance, une hésitation, on doit revenir vers eux pour qu'ils nous éclairent et nous guide vers le droit chemin. Et les salaf, rahmatullahi alayhim, rivalisaient dans cela sur le fait de toujours revenir aux savants, même si eux-mêmes étaient des savants, ils ne se précipitaient pas à répondre avant de consulter les autres savants pour savoir quel avis ils devaient donner. Aussi, parmi les droits qu'ils ont sur nous, qu'on leur obéisse. Allah dans le Coran dit, ya ayyuha alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum, vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers ainsi que ceux parmi vous qui ont le commandement. Et les savants ont dit que rentrent dans cela ceux qui ont le commandement de catégorie, les gouverneurs et les savants. Les gouverneurs, on leur obéit tant que l'ordre est conforme à l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala ou ne contient pas une désobéissance envers Allah jalla wa ala. Et les savants, on leur obéit tant qu'il nous dirige avec une preuve. Quant à l'imitation aveugle et le fanatisme, il n'est pas toléré. Et on ne doit pas s'accrocher aux savants, quoi qu'ils disent, sous prétexte qu'on l'aime énormément. Il faut se rappeler qu'il reste un être humain et qu'il est possible qu'il n'ait pas la réponse à la question, ou bien qu'il est possible que le hadith en question dans lequel il y a la réponse ne nous soit pas parvenu. Il a donc fait un effort de réflexion. Le shir, quand il nous donne un avis, ou bien quand on fait référence à lui, et qu'on se rend compte que l'avis en question n'est pas correct, on ne doit pas le suivre dans cela. التقليد الأعمى هذا حرام كما ذكره ابن تيمية رحمه الله وهو بمنزلة الميتة لا يؤكل إلا في الضرورة. هذا التقليد donc l'imitation elle est comme la bête morte qui est interdite à la consommation sauf dans le cas où on avait autre à manger et on craint la mort. Et comme on a dit que les savants pouvaient se tromper et qu'il fallait pas s'accrocher à leurs avis lorsqu'ils nous aient on a vu à travers monsieur la parole de notre savant qui n'était pas correct, eh bien on se doit de leur trouver des erreurs, pardon, on se doit de leur trouver des excuses. On se doit de leur trouver des excuses et de ne pas leur en vouloir pour cela. Comment leur en vouloir alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala les récompense pour l'effort de réflexion qu'ils ont accompli et l'erreur qu'ils ont accompli elle leur est pardonnée. D'ailleurs à titre indicatif, Ibn Abidin yadhkur fi hashiyatihi عن المزني رحمه الله تعالى أنه قال قرأت كتاب الرسالة على الشافعي رحمه الله 80 مرة فما من مرة إلا وكان يقف على خطأ فقال الشافعي رحمه الله هيه أبى الله أن يكون كتابا صحيحا غير كتابه غير كتابه. المزني رحمه الله الذي j'ai lu le livre de الرسالة écrit par الشافعي الشافعي 80 fois. Et il n'y a pas durant l'une de ces fois, une fois où il ne m'arrêtait pas sur une erreur. C'est lui qui a écrit le livre. Et Al-Muzani, son élève, il lui lit le livre. Et il lui dit chaque fois, ah, il y a une erreur, ah, il y a une erreur, il y a une erreur. Et Al-Muzani, il est étonné quand même, il y a des erreurs dans ton livre. Après, Shafi'i dit, hé, hey, Allah, il refuse qu'un autre livre que le sien, il soit parfait. Allah, il refuse qu'un autre livre que le sien, il soit parfait. Le seul livre exempt de toute erreur, c'est le Coran. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. S'il venait d'autre qu'Allah, ils y auraient trouvé énormément d'incohérences. أَمَّا غَيْرُهُ مِنَ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ فَهِيَ مُتَعَرِّضَةِ الْخَطَأِ. كيف يوصف صحيح البخاري؟ يقال أصح الكتب المصنفة بعد كتاب الله. Le plus authentique des livres écrits après le Coran. Le plus authentique. Ce qui veut dire qu'il n'est pas au même degré dans l'authenticité que le Coran. Ou bien dans la présence, plutôt dans l'absence d'erreur. Et enfin, je m'arrêterai là, un point très important, c'est d'accrocher, de faire en sorte que les gens soient accrochés à leurs savants. Notamment les personnes âgées et les jeunes. Qui ont tendance malheureusement à ne pas connaître la présence et l'existence de leurs savants. Il faut les rappeler, il faut rappeler aux gens qu'il y a des savants, alhamdulillah, à tout moment, dans toute époque, et qu'il faut revenir vers eux. Et c'est une honte, voire une calamité à ce qu'on soit tous capables de donner des noms d'acteurs, de sportifs, de chanteurs, et qu'on soit incapable de donner le nom de 3 ou 4 savants existants aujourd'hui. Plus que ça encore, quand on ignore le nom des savants de nos propres pays. Le nom des savants de notre propre pays. Des fois, on nous dit quoi? Il n'y a pas de savants au Maroc, il n'y a pas de savants en Algérie, il n'y a pas de savants en Mauritanie. Ah, subhanallah. Oh, scoute, Hassan, lek, scoute. Ma te baguette, je bada, jahlek. Tais-toi, Hassan. Dis, je ne connais pas, je ne sais pas s'il y a des savants au Maroc ou là ailleurs, ou bien je n'en connais pas. Mais dis pas, il n'y en a pas, mutlaqan. Ajib, hada. Comment ça, il n'y a pas de savants au Maroc ou là ailleurs? Comment ça? Regardez les anciens savants. La majorité, c'est même pas des Arabes. La majorité, c'est pas des Arabes. Al-Bukhari, Al-Tirmidhi, l'ont passé d'autres, Ishaq ibn Rahway, et d'autres. C'est pas des Arabes. Hachim Qati était d'où? Mauritanie. Mohamed Taqidine, il était d'où? Du Maroc. Hamad Ansari, il était d'où? Du Mali. J'en passais d'autres. Il y en a plein. Donc, walhamdulillah, il faut pousser les gens vers leurs savants et leur rappeler que les savants ils sont ici Et ils sont présents, alhamdulillah, pas ici, en France, mais qui sont amis sur terre, toujours présents, et qu'il faut revenir vers eux. Qu'il faut revenir vers eux. Et je m'arrêterai là, excusez-moi pour le ta'khir. Et surtout revenir vers les vieux, les akabir, les grands. Les grands savants, et faites attention aux petits. وارحل الى عواصم الامصار واعمد الى اشياخها الكبار لا تاخذ العلم عن الصغار فانه مظنة الصغار. Déplace-toi vers les grandes villes et assieds-toi devant les grands savants. Ne prends pas la science des petits, ça va t'amener à la bassesse. Et même des hadiths là-dessus. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, donc, سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أشراط الساعة فقال عليه الصلاة والسلام إن من أشراطها أن يلتمس العلم عند الأصاغر. On a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quels sont les signes de la fin des temps? Il a dit, parmi les signes de la fin des temps, qu'on recherche la science chez les petits. Après, les savants ont divergé, les petits, c'est quoi? C'est les mubtazi'a? Ou bien c'est les jeunes. Et beaucoup disent qu'il s'agit des jeunes, ceux qui sont encore jeunes. D'ailleurs, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu disait, لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم فإذا أخذوه من صغارهم وشرارهم هلكوا. Les gens ne cesseront d'être bien tant qu'ils prendront la science des grands parmi eux, des gens de confiance de leurs savants. Et lorsqu'ils prendront de leurs petits et des plus mauvais parmi eux, alors ils courront à leur perte. Abdullah ibn Muslim ibn Qutaybata, rahimahullah, a demandé quel est le sens de cette parole, la parole de Abdullah ibn Mas'ud. Faqal, la yazalu an-nasu bi khayrin ma faqal yurid la yazalu an-nasu bi khayrin ma kana ulama'uhum al-mashayikh wa lam yakun ulama'uhum al-ahdath. لأن الشيخ قد زالت عنه ميعة الشباب وحدته وعجلته وعجلته وسفه واستصحب التجربة والخبرة فلا يدخل عليه في علمه الشبهة ولا يغلب عليه الهوى ولا يميل به الطمع ولا يستزله الشيطان استزلال الحدث ومع السن الوقار والجلالة والهيبة والحدث قد يدخل عليه هذه الأمور التي أمنت على الشيخ فإذا دخلت عليه وأفتى هلك وأهلك. Donc ils ont demandé le sens de cette parole là. Il a dit, il voulait dire que les gens ne cesseront d'être bien tant que leurs savants seront les plus vieux parmi eux. Sahib al-Shaiba, celui qui a la barbe blanche, et que leurs savants ne soient pas les jeunes parmi eux, l'ahdath, les nouveaux, les jeunes. Le vieux, lui, la légèreté de la jeunesse s'en est allée. Son caractère tranchant et sa précipitation et sa sottise. Quand on est jeune, on est comme ça. On est dur les uns envers les autres. On est tranchant. On est comme des lames aiguisées prêtes à trancher. Et on se précipite. Et on est sot. On est sot. On fait preuve de sottise. Alors que, Le vieillard, tout ceci est parti. Il a de l'expérience. Et ce genre de problème ne le touche plus. Et les ambiguïtés ne touchent plus sa science. Ses passions ne prennent pas le dessus sur lui. Et sa nature ne l'emporte pas sur sa réflexion. Shaitan ne le fait pas glisser comme il fait glisser le jeune. Et celui qui a de l'âge, il a de la carrure. Et il inspire le respect. Alors que le jeune, tout ceci peut rentrer en lui. Tout ce qu'on a cité précédemment. Ces choses-là dont le vieillard est maintenant à l'abri. Et lorsque le jeune est touché par ce qu'on a cité précédemment, la précipitation, la sévérité, la sottise et autres, et qu'il se met à émettre des avis juridiques, il y a juste, et ben il court à sa perte et il fait courir les gens à leur perte. Ça, c'est un faïd min ghaïd wa qatratun min bahr. Ce qu'on a dit, c'est très peu. J'ai raccourci, parce qu'on m'a fait des regards bizarres. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل في هذا القدر كفاية وبركة، ونسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا بالعمل بعد أن من علينا بالتحدث بهذه الأشياء، فإن التحدث بهذه الأشياء على اللسان يسير، يسير ويسيل، وأما العمل بالأركان فهذا شيء آخر. نسأل الله تبارك الإخلاص والتوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم أجمعين.
Ça va tout 10 minutes de pause, inchallah, et on reprend avec la suite.